les versets 1 et 2. Donc on avait partagé le verset 1 et on avait vu que l'apôtre Paul nous exhortait à offrir nos corps en sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Et au début du chapitre, il avait utilisé la conjonction de coordination « donc » qui induisait qu'il y avait quelque chose qu'il avait décrit tout au long de, au fil des 11 premiers chapitres du livre de Romains, pour nous inviter donc à offrir nos corps en sacrifice à cause de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc, nous avons vu que, bien que le Seigneur avait choisi le peuple d'Israël pour être un peuple qui lui appartient en propre, il a étendu son appel à nous autres, chrétiens aujourd'hui, peuple de Dieu, originaire de nations païennes. Dieu a étendu sa grâce et l'apôtre Paul disait aux Romains, vous êtes de ceux-là, vous êtes de ceux qui ont reçu l'appel. Nous avons également vu que le juif n'était finalement plus supérieur à nous, non-juifs, parce qu'il n'y avait point de juste et il n'y avait que à cause de la mort de Jésus-Christ que nous pouvons être déclarés justes. Parce que nous avons, bien que le juif avait reçu la circoncision de la loi, nous avions reçu aussi la circoncision du cœur par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons également vu que Dieu, qui avait fixé une sentence terrible et irrévocable contre l'humanité à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien que cette sentence ait été fixée, Dieu a changé sa sentence à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, à cause de son sang qui a coulé, qui a été versé pour nous sauver. Et donc, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle et nous avons l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et donc Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et donc la condamnation qui était sur notre vie n'a plus de raison d'être. Il n'y a donc plus de condamnation parce que nous sommes devenus fils. Fils d'adoption par l'Esprit de Dieu, et personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et finalement, nous avons vu que pour toute cette œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ, nous n'avions rien à faire. Nous n'avions rien à faire si ce n'est d'accepter ce cadeau merveilleux que Christ nous offrait. Et à cause donc de cette œuvre qui est complètement gratuite, qui est à notre disposition, à la disposition du monde entier. La Bible nous dit que quiconque croit sera sauvé. Donc il nous suffit simplement de tendre la main et de dire merci Seigneur pour cette œuvre magnifique. Et je crois que c'est ce donc-là, c'est à cause de cette œuvre que l'apôtre Paul nous invite à offrir nos corps en sacrifice vivant. Si Dieu a fait tout ceci pour nous, s'il nous a tirés de notre bout où on était, nous devons lui offrir nos corps en sacrifice. Donc, nous avions vu le chapitre, le verset 1, et ce matin, nous allons plus nous focaliser sur le verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En d'autres termes, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ici, l'appel de Paul vise non pas le retrait du croyant hors du monde, pour se consacrer à Dieu, mais plutôt une relation de l'individu, une relation du chrétien et de la communauté avec les croyants et le monde. Une relation qui soit basée sur la compréhension de l'œuvre de Dieu, la compréhension de l'œuvre de Dieu qui a été relatée tout au long des 11 chapitres de Romains. Dieu ne nous demande donc pas, en tant que chrétiens, de nous isoler du monde ou de nous exclure du monde sans relation sociale avec nos entourages, notre entourage, nos voisins. Non, la volonté de Dieu pour nous chrétiens est que tout en vivant dans ce monde, sous l'influence du mal, sous l'influence du diable, nous vivions une vie qui lui soit agréable, sans nous laisser séduire par les attraits de ce monde. C'est d'ailleurs la volonté de Jésus-Christ, c'est d'ailleurs son souhait, qu'il exprime dans la prière qu'il a adressée à son Père juste avant d'être livré à la croix. Dans Jean 17, les versets 15 à 16, Jésus prie et dit à son Père, « Je ne te demande pas de les ôter, de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. » Donc nous n'appartenons pas au monde. Pourquoi donc cherchons-nous à nous conformer au monde? Pourquoi nous laissons-nous parfois si facilement modeler, nous laissons-nous couler dans le moule de ce monde? Donc Jésus lui-même ne nous demande pas de nous isoler, de nous retirer du monde. Au contraire, il nous envoie dans le monde pour que nous soyons lumière, sel de la terre et lumière du monde, comme il nous le dit dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. Une lumière qui brille au point d'attirer les regards, pour que le monde le voie, et qu'en nous voyant vivre, rendre gloire à Dieu. Comment pourrais-je donc briller dans ce monde si je lui ressemble? Comment puis-je influencer le monde en tant que chrétien si je me laisse influencer par lui? L'apôtre Pierre a bien compris ce message de Jésus, qu'il le reprend lorsqu'il écrit son épître, quelques années plus tard, après la montée de Jésus au ciel, dans 1 Pierre 2,12, encourageant les croyants à avoir une bonne conduite parmi les païens, afin que là même où ils vous calomnient, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue. Et l'apôtre Pierre nous rappelle également que nous ne sommes dans ce monde que des résidents temporaires. Des résidents temporaires. Justement, et Jésus l'a dit, nous l'avons vu tout à l'heure, que nous n'appartenons pas au monde. Notre patrie est dans les cieux, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous ne devons pas nous laisser séduire par les attraits de ce monde. Ne pas se laisser modeler par le monde, c'est aussi ne pas céder aux désirs de l'homme charnel. On pourrait aussi comprendre que nous devons arrêter de vivre comme ce que nous étions autrefois, c'est-à-dire des gens sans Dieu. Ce besoin de séparation d'avec le monde est tellement important pour la vie du chrétien qu'il est présent dans plusieurs exhortations dans la parole de Dieu à diverses églises. Vous pouvez ouvrir Éphésiens 4, verset 17. Excusez-moi, j'aurais peut-être besoin d'un petit verre d'eau, si c'est possible. Éphésiens 4, verset 17. vous ne devez... Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. » Et je saute au verset 19. « Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » Nous avons également le verset au chapitre 5 d'Éphésiens. « Autrefois, verset 7, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. » Merci Jean. « Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, discernant ce qui plaît à Dieu. » Un autre, d'autres versets dans 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. L'apôtre Jean, lui, dans sa première épître, le chapitre 2, les versets 15 à 17, dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. La soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Or, le monde passe avec ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Éphésiens 2, 3 à 7. Je vais le lire. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions encore spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois que j'ai apporté le partage dans les premiers chapitres de Romains, l'œuvre de Dieu et comment il nous a justement sortis de notre condition d'esclave du péché, notre condition de condamné à cause de notre péché, et qu'il nous a ressuscité ensemble à cause de Christ et nous fait siéger dans le monde céleste. Quel amour et quelle grâce! Si donc Dieu a fait tout ceci pour nous, pour nous sortir de là où nous étions, pour nous arracher au royaume des ténèbres, pourquoi si souvent nous voudrions encore y retourner en nous conformant au siècle présent? Donc l'apôtre Paul nous exhorte donc à nous laisser plutôt transformer par le renouvellement de notre pensée, par le renouvellement de notre intelligence. D'autres traductions disent « Laissez-vous renouveler par le changement de ce qui oriente nos pensées. » Qu'est-ce qui oriente nos pensées ? Est-ce que ce qui oriente nos pensées, c'est plutôt ce qui est conforme à la parole de Dieu ? Je pense à... je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est Philippiens 4, verset 8. Voilà. Philippiens 4, verset 8. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, et tout ce qui mérite respect et louange. » Est-ce que ce qui oriente nos pensées, c'est plutôt ce qui est décrit dans ce verset ? Ou ce qui oriente nos pensées, c'est justement tout ce qui constitue les attraits de ce monde, la convoitise, l'argent, le sexe, les biens matériels, ou simplement notre confort. Laissons le Saint-Esprit diriger notre vie et faire naître en nous son fruit. Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et en Galates 5, 25 également, il est écrit « Puisque l'Esprit de Dieu est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Nous n'appartenons donc pas au monde. Pourquoi voudrions-nous parfois, même au prix de notre foi, de notre intégrité, de notre relation avec Dieu et avec les frères, compromettre notre foi en imitant le monde? Est-ce que mon voisin, mon collègue de classe, mes amis, mes professeurs, mon patron, mes clients, etc., toutes ces personnes sont-ils capables de voir Jésus-Christ dans ma manière de vivre, dans mon comportement ? Sont-ils capables de percevoir dans ma façon d'agir et de me comporter qu'il y a quelque chose de différent en moi ? Ou bien suis-je avec eux dans les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes égarements ? On pourrait prendre l'exhortation de Paul, ce deuxième verset, par la fin en disant « Si nous voulons faire la volonté de Dieu, premièrement, alors nous devons réaliser qu'il y a une lutte constante de notre propre volonté. » L'apôtre Paul disait « Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. » Et devant ce monde, devant ce que le monde nous offre, à tous les âges, à toutes les sauces, partout, dans tous les pays, nous devons résister et laisser le Saint-Esprit orienter nos pensées. Une lutte entre la loi du péché et la loi de mon entendement. La Bible nous exhorte à combattre la loi du péché par la loi de l'Esprit, en nous affectionnant aux choses d'en haut. Deuxièmement, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons résister à la pression du monde. Ne pas contrôler nos pensées, notre volonté, ce serait perdre la bataille de la consécration pour Dieu. Tôt ou tard, les actes suivront ce qui règne dans notre cœur. En nous laissant Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons également nous laisser transformer constamment en dépouillant le vieil homme, tel qu'il est décrit dans Éphésiens 4, 17, 39. En conclusion, trois clés à la connaissance de la volonté de Dieu. Verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte à nous offrir comme un sacrifice vivant. Donc, premièrement, un corps offert. Soumets ton corps et tes pensées à Dieu. Deuxièmement, une vie séparée. Séparée du monde. Non pas de nous exclure du monde et de nous isoler, mais de résister aux valeurs de ce monde, résister à ce que ce monde nous offre et qui est au contraire désagréable à notre Dieu. Et troisième clé, une intelligence transformée. Penser comme Dieu pense, tel que révélé dans sa parole, la Bible. Rappelons-nous, si Dieu est mort pour nous, le moins qu'on puisse faire, c'est de vivre pour lui. Amen.